Bonjour les amis et bienvenue sur Original Sound Doggers. Vous êtes sur le 12e épisode de ce podcast consacré à la musique de jeux vidéo. Je vous le rappelle, ça fait un moment qu'on n'a pas sorti de numéro. On a fait une petite pause de début d'année 2014. Donc même si c'est un peu tard pour vous le souhaiter, bonne année à tous, hein. On va reprendre un rythme un peu plus naturel désormais. Donc je suis Poulpi Blast, vous commencez à le savoir si vous connaissez déjà OSB. Pour les autres, je me présente. Donc, et je vous présente également mes compatriotes, mes compères qui sont là depuis le tout début, Onink et Vicpor. Les gars, comment ça va en cette année 2014?
Salut, écoute, ouais, ça va très bien. Comme tu dis, ouais, ça fait une petite période qu'on n'a pas fait d'épisode. Moi personnellement, ça me manquait un petit peu, donc voilà, je suis très content de reprendre. En plus, on a un sujet assez cool aujourd'hui. Donc les musiques jazzy, qui est... finalement, c'est des musiques assez rares dans le jeu vidéo, mais on a quand même une petite sélection assez sympa.
Assez rare, finalement, moi j'ai été assez étonné de voir qu'en cherchant un peu, bon, en fouillant derrière les fagots, mais qu'il y en avait quand même assez. Il y en avait quand même pas mal, et je m'attendais pas à trouver autant de trucs en fait. Donc on va voir, mais normalement, ça devrait faire quelque chose d'assez bien au niveau playlist.
C'est vrai qu'il y en a pas mal, on vous en a donc sélectionné 14 comme chaque mois sur le jazz, le thème du jazz. Vous allez voir qu'on en a trouvé des très très bien, qui font un petit peu vieillotte parfois, qui font un peu voilà années 40, années 50. On a du plus récent, il y a du jazz un petit peu ambiant, lounge, il y a des trucs plus dansants. Là vous entendez en fond par exemple un thème très dansant, le thème de Super Mario 3D World, le thème principal. Jeu sorti en novembre 2013 sur Wii U, il y a 4 personnes sur cette BO, à savoir Koji Kondo, qu'on ne présente plus, Toru Minegishi, qui s'était déjà occupé de plusieurs Zelda, de Mario Sunshine, de Pokémon Stadium, d'Animal Crossing notamment, et deux autres personnes beaucoup moins connues qui sont Maito Yokota et Yasuaki Iwata. Un jeu sorti il y a 3 mois, messieurs, est-ce que vous avez eu l'occasion d'y toucher?
Honnêtement, non, parce que je n'ai pas de Wii U, je ne connais personne qui en a une, donc forcément je... J'y ai pas touché, après je pense que j'ai fait comme tout le monde, j'ai regardé un peu à quoi ça ressemblait, étant donné que, bah, que les premiers avis étaient pas super enthousiasmants, voilà, c'était un peu dans la période où tout le monde disait que Mario tournait en rond, et finalement une fois que le jeu est sorti, bah, on a eu des très bonnes reviews un peu partout, en disant que voilà, la licence n'avait rien perdu de son originalité, de ses trouvailles. Et du coup, étant donné que j'ai pas pu y jouer, je suis allé voir un peu du côté de la BO, qui est dans, on va dire, la droite lignée de ce qui s'est fait dans Mario Galaxy. C'est-à-dire qu'il y a pas mal de réarrangements très très sympas des anciens thèmes, quelques compositions originales très sympathiques, et notamment ce thème principal voilà, qui était utilisé pour les trailers et qui m'a beaucoup plu, voilà, qui donne vraiment la pêche.
Onink, peut-être ?
Ah non, moi je suis pas un grand fan des Mario, je crois que je l'ai déjà dit dans plusieurs épisodes de l'émission, et ouais, pareil, pour ce qui est des musiques, j'ai un petit peu écouté l'OST, et ouais, tu compares ça à Mario Galaxy, moi quand même je trouve qu'il y a une petite différence... que qualitative, Mario Galaxy c'est toujours un bonheur à écouter, alors que là j'ai un peu plus de mal. Et pareil, ce thème principal, ouais, je l'écoute pas très souvent, il m'enchante pas vraiment, à vrai dire.
Bah, ça fait très musique de menu, hein, finalement, c'est pas genre le truc.
Oui, oui.
C'est le truc qu'on écoute en fond, autour duquel on va pas tourner, voilà, on gravite pas autour de cette musique dans le jeu, et c'est un peu un accompagnement comme un autre.
Une mélodie très très guirette comme on entend souvent dans les Mario classiques en 2D.
Voilà, tout à fait. Voilà, moi personnellement, je l'ai pas fait ce jeu parce que j'ai fait Super Mario 3D Land sur Nintendo 3DS, qui m'a beaucoup pas vraiment déçu, mais je suis un peu resté sur ma faim, je l'ai trouvé un peu plat par rapport à d'autres Mario, et du coup j'ai pas voulu faire le World. C'est peut-être un tort, je ne sais pas. Vous auditeurs, donnez-moi tort ou raison. Vous entendez ce thème de Mario 3D World, et on va passer directement à la première diffusion. Un jeu dont on a, je crois, déjà parlé sur OSB, je me souviens plus exactement quand. Mais il s'agit de Gravity Rush, un morceau qui s'appelle Pleasure Quarter. Confirmez-moi, les gars, on en a déjà parlé ou pas?
Ouais, oui. On en a parlé dans les thèmes chantés, avec Douce et Sinun Dakara, qui était un morceau très jazzy aussi, et qui était très sympa. C'était Onink qui nous en avait parlé, je crois, donc tu peux pas le refaire.
Oui, oui, bah comme on a déjà parlé à cet épisode, il n'y a pas grand-chose à rajouter. Donc là, on va diffuser un thème vraiment très dynamique, que j'aime beaucoup. Donc signé Koei Tanaka, hein, qui a vraiment fait un boulot formidable sur cette OST, qui est extrêmement varié, qui comporte à la fois des morceaux très posés, très doux, des morceaux mélancoliques, des thèmes plus épiques lors des bastons, on a même du rock. Et pourtant, dans l'ensemble, ça reste très cohérent. Il y a aussi quelques pistes de jazz, comme celle qu'on va écouter, et tous ces Shinun Nakala qui est aussi du jazz. Et voilà, c'est du très très bon, c'est toujours un bonheur d'écouter cette OST.
On va écouter un morceau qui s'appelle Pleasure Quarter de ce jeu Gravity Rush sorti sur PlayStation Vita en 2012. Et on vous laisse écouter ce morceau et on se retrouve après pour un peu plus de jazz et un peu plus de funky funky. Quarter, c'était un morceau de la BO de Gravity Rush composé par Kohei Tanaka. Vous êtes toujours sur OSB, le 12e épisode. C'est toujours le jazz qui nous accompagne lors de cette heure d'émission. Vous entendez maintenant un morceau un peu plus posé, un peu plus dans l'esprit de Roger Rabbit, hein, j'ai envie de dire. Moi, ça me rappelle toujours ce film-là. Ces musiques un petit peu jazzy comme ça, très très fines. Le jeu s'appelle Sam et Max, très exactement Sam et Max saison 1, renommé ensuite Sam et Max Save the World en 2009. Il est sorti en 2006, ce jeu à la base, sur PC, Wii et Xbox 360. Le morceau s'appelle The Office, donc Sam et Max c'est un jeu de Telltale Games, hein, qui est connu notamment pour ses jeux à succès comme The Walking Dead, jeux à épisodes, tout ça. Je crois que c'est Victor qui connaît plus Telltale parmi nous. Hein.
Oui, enfin, je connais Telltale, je suis pas non plus un expert. Telltale, on les connaît parce que c'est avec Dadelix, ce sont les papes du jeu d'aventure aujourd'hui. Ce sont à peu près les deux studios, bon, il y en a d'autres, hein, mais c'est les deux studios principaux du point and click aujourd'hui. Telltale, donc, ils se sont fait principalement connaître avec The Walking Dead, tu l'as dit. Ils ont fait pas mal de trucs avant, notamment la série Sam & Max. Ils ont fait des jeux Retour vers le futur, si je me trompe pas, Jurassic Park qui était horrible, mais ils ont vraiment explosé avec The Walking Dead et par la suite The Wolf Among Us, et ils vont s'occuper de Tales of the Borderlands et Tales of Game of Thrones.
Ah oui.
Donc The Walking Dead a eu un énorme succès, du coup ils sont devenus extrêmement populaires. Je sais que Sam & Max c'est une très bonne série de jeux d'aventure, assez plébiscitée par le public. Malheureusement, j'y ai pas joué, donc je pourrais pas vous en dire plus. Et la musique est très bien, en tout cas, donc...
Oui, la série à la base est de LucasArts. Hein. Telltale a repris pas mal de séries de LucasArts, notamment, donc on l'a dit, Sam & Max, Monkey Island également. Et Sam & Max est lui-même basé sur les comics de Steve Purcell. Les musiques sont de Jared Emerson Johnson, compositeur officiel entre guillemets de Telltale, dont on a déjà parlé du coup à propos de The Walking Dead. Alors, on en a parlé vite fait parce qu'on avait passé un morceau d'Allée la Diane, hein, si vous vous souvenez bien. Voilà, Jared Emerson Johnson, le compositeur de The Office, la musique qu'on entend en fond. Mais il n'a pas trop parlé sur Sam & Max, mais on va le mettre un peu à contribution, l'ami Onink là, parce qu'on va diffuser un morceau d'un jeu sur lequel il est en ce moment, si j'ai bien compris. Le morceau s'appelle Torched Song, et le jeu s'appelle L.A. Noir, jeu d'action et d'enquête de Rockstar Games, co-développé par les Australiens de Team Bondi, sorti en 2011 sur PS3, Xbox 360 et PC. Alors Onink, puisque t'es en train de le faire, qu'en penses-tu de L.A. Noir ?
Voilà, effectivement, donc on reste dans le même type d'ambiance de détective que pour Sam & Max, sauf là c'est beaucoup plus réaliste évidemment. Donc oui, comme tu le dis, je suis en plein dedans à ce moment et je suis pour l'instant vraiment séduit par l'ambiance très années 50 du jeu, donc, qui se déroule quelques années après la Seconde Guerre mondiale. Donc on suit les enquêtes de Cole Phelps, un ancien militaire, qui va essayer de monter en grade dans sa petite agence. Donc on enchaîne les enquêtes avec intérêt, on a toujours une petite surprise à la fin de celle-ci, donc c'est toujours intéressant. Et c'est plutôt pas mal, même si bon, c'est vrai qu'on se fait un peu chier au niveau du gameplay, faut quand même le dire. Mais l'enrobage fait quand même passer la pilule, avec un fil rouge scénaristique centré sur Phelps, ses souvenirs de la guerre, son ascension, vraiment, vraiment cool. Donc musicalement, on a évidemment beaucoup de morceaux de jazzy, originaux ou préexistants. On a des musiques d'ambiance plus classiques. Et ouais, l'ensemble est vraiment réussi. Donc, là, le thème qu'on a choisi de diffuser, c'est un thème chanté qui est, ouais, selon moi, c'est sans doute une des meilleures musiques du jeu.
Comme tu l'as dit, Onink, hein, un thème chanté qu'on va entendre là, chanté par l'allemande Claudia Brücken, très exactement. C'est un morceau, les morceaux typés années 40 comme ça dans la BO ont été composés par le groupe The Real Tuesday Weld et donc chantés par cette allemande Claudia Brücken. Mais sinon, dans l'ensemble, la BO a été composée par Simon Hale, un arrangeur anglais ayant bossé sur des albums de Jamiroquai, Björk, Madness, Supergrass ou encore Josh Groban. Il en a fait plein d'autres.
Oh, je vous invite.
C'est de la merde. Oh non, c'est pas de la merde. Le gars, il a un CV long comme un jour sans pain. Je vous invite à aller voir sa page Wikipédia. Donc à Simon Hale, il y a beaucoup de boulot derrière. Donc L.A. Noir, Torched Song, et on se retrouve juste après.
You fend the flames in- say that you were only fooling. Don't walk away. Don't do me wrong. Don't leave me this way, singing this torch song. Don't leave me burning. I'm burning.
Le jazz sensuel de L.A. Noire avec Torch Song, donc la voix de Claudia Brücken qui vous a embaumé de tout son amour pour le jazz tranquille, le jazz qui vous emporte, le jazz Roger Rabbit comme je disais tout à l'heure. Comme le soulignait Victor entre les deux morceaux pendant l'enregistrement, on a beaucoup trouvé plutôt des musiques de bar, des musiques de bureau, des endroits voilà, très très posés, l'endroit où on va fumer son petit cigare. Bon, il n'y a pas que ça, mais il y a beaucoup de ça. Et là, en l'occurrence, en fond, vous entendez un thème de Tales of Symphonia. Je crois que c'est un thème de Casino, si ma mémoire est bonne. J'ai pas trouvé exactement la référence sur Internet. Le morceau s'appelle A Selfish Want. Donc le jeu Tales of Symphonia, hein, de la série des Tales of qu'on ne présente plus, est sorti sur GameCube en 2004 et également sur PS2 au Japon uniquement. Tales of Symphonia, vous, ça vous parle ou pas?
Honnêtement, c'est une série que j'ai fait beaucoup, donc du coup, je pourrais pas t'en parler. Je connais un peu la musique parce que Sakuraba, c'est un compositeur que j'apprécie. Après, comme on l'avait souligné dans plusieurs podcasts quand on en parlait, c'est un compositeur qui se recycle pas mal. Et notamment sur la série des Tales of, au bout d'un moment, une fois que t'as écouté la BO de 2-3 jeux, surtout que c'est des BO qui font 30-70 morceaux, t'as tendance à plus les écouter parce que tu sais à peu près à quoi t'attendre et que malheureusement ça se renouvelle pas beaucoup. Donc bon, c'est un peu des BO que j'ai arrêté d'écouter et une série auxquelles je m'intéresse pas plus que ça.
Effectivement, après bon là en l'occurrence c'est vrai qu'on n'a pas trop eu l'occasion de l'entendre dans le jazz, hein, Motoi Sakuraba jusqu'à présent.
Oui,
on avait plutôt l'occasion de l'entendre généralement sur du rock progressif, des trucs comme ça. Donc là, un petit jazz ça fait pas de mal non plus.
Je vous conseille vraiment de. Honnêtement, si vous voulez vous intéresser à Sakuraba plutôt que d'écouter ces tonnes et ces tonnes de morceaux OST à part, vous avez peut-être moyen de trouver les albums compilation qu'il a fait. Notamment sur la série des Tales of, il y a pas mal d'albums qui sortent au Japon, qui sont faits pour les anniversaires de la série, où ils reprennent les meilleures musiques. Et c'est plutôt sympa, généralement les sélections sont assez bien faites. Du coup, ça vous permet de vous donner un aperçu assez global du boulot du bonhomme.
Et en parlant de boulot de bonhomme, on va écouter maintenant un thème composé par Peter McConnell. Alors Peter McConnell, on n'en a pas encore parlé sur OSB, et pourtant, il y avait matière. C'est un mec qui a bossé sur Monkey Island 2, sur Sam & Max Hit the Road, sur Day of the Tentacle, sur de nombreux Star Wars, sur Sly Cooper, sur Psychonauts, sur Brutal Legend, sur Hearthstone très récemment. Donc ça fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de matière pour ce type qui a bossé chez LucasArts. Et c'est tout naturellement un jeu de LucasArts qu'on va vous présenter en diffusion désormais. Grim Fandango, un jeu qui ne pouvait pas échapper au thème de ce podcast.
Ah, complètement.
Grim Fandango, c'est un point and click, hein, rappelons-le, sorti en 1998 sur PC et sur Mac. Donc le jeu avec la BO jazzy par excellence. Moi, quand on parle de musique jazz dans le jeu vidéo, je pense à Grim Fandango tout de suite. On va écouter un thème qui s'appelle Swanky Maximino. Est-ce que quelqu'un a fait Grim Fandango ici? Je sais que Victor, t'aimes bien les point and click par exemple.
Ouais, mais voilà, il y a des point and click que je n'ai pas fait encore, dont Deponia, dont Grim Fandango et dont pas mal de jeux, et malheureusement, bah voilà, Grim Fandango il fait partie de cette liste-là. Donc je compte bien le faire sous peu, si je pouvais avoir un peu de temps libre, mais je l'ai pas encore fait. Et c'est une grande tare parce que je crois qu'il est dans les 5 plus grands point and click de tous les temps, sur le classement de je sais plus quel site. Je crois que sur Sens Critique je l'ai vu très souvent dans les classements des meilleurs jeux d'aventure. Il est très très souvent cité. Il a une direction artistique assez originale, avec cet univers voilà mexicain, sud-américain. Selon les dires de tous ceux qui ont joué, et je les crois, toute la richesse de dialogue qui est dans tous les jeux Tim Schafer. Donc il me fait très très envie. Et puis, comme vous allez l'entendre, il a une BO de folie ultra diversifiée, et je vous conseille l'excellent épisode d'Afterbeat à ce sujet sur jeuxvideo.com.
vrai que comme toutes les OST des jeux LucasArts, ouais, celle de Grim Fandango, c'est vraiment le résultat d'un super travail des compositeurs. Il y a ouais, deux grosses mouvances principales qui se dégagent des musiques. T'as la tendance jazzy très cool, comme le morceau qu'on va diffuser, et t'as une tendance plus musique traditionnelle, mexicaine, hispanique, qui colle très bien avec l'univers du jeu. Ouais, la bande-son, c'est une super réussite.
Vous allez vous en faire une idée par vous-même, évidemment. Le morceau s'intitule Swanky Maximino. Le jeu, c'est Grim Fandango, musique composée par Peter McConnell, qui fait un petit coup ce jazz de comptoir, avec l'ambiance cigare bien fumée et tout ça. Et on se retrouve ensuite en détente et en douceur. Retour de l'ambiance chaleureuse de Grim Fandango avec Swanky Maximino, jeu exceptionnel, OST exceptionnel, on l'a dit, on ne pouvait pas passer à côté. Et là, on va se permettre un petit troll, parce que moi, c'est vrai que dans mon inconscient de musicien, le jazz, c'est un petit peu la musique d'ascenseur par excellence. Et du coup, je me suis permis de choisir une musique d'ascenseur pour accompagner un fond de ce podcast. En l'occurrence, la musique de Elevator A. C'est donc une musique de GoldenEye 007, ce thème d'ascenseur. Jeu sorti sur Nintendo 64, rappelons-le. Le fameux FPS console par excellence. GoldenEye avec son mode histoire qui aura fait frémir plein de joueurs. Son multijoueur sur lequel on aura passé des heures et des heures. Notamment avec Odd Job qui pouvait lancer son chapeau même quand il avait pas d'armes et qui pouvait être cheaté à mort. Avec le Golden Gun qui faisait des instant kills totalement débiles. Donc vous, d'après ce que j'ai compris, GoldenEye, les gars, c'était pas trop votre trip, vous y avez pas joué.
Bah non, moi j'ai jamais tout... Enfin, honnêtement, j'ai presque jamais touché une Nintendo 64. Et GoldenEye, j'ai joué en multi, voilà, chez les gens, mais c'est tout quoi, le reste... Ça, c'est quand même un jeu qui a pas mal vieilli, donc du coup, je t'avoue que c'est pas forcément le genre de jeu qui...
Ça a pas mal vieilli. On a parlé d'ailleurs assez récemment sur le podcast sur l'espace, de sa suite un peu spirituelle, Perfect Dark. C'est un peu le même ordre d'idée, quand on a quand même un des graphismes relativement carrés, hein, c'est les débuts de la 3D, relativement cubique. Avec les personnages, on pouvait leur mettre des têtes énormissimes dans les options. C'était assez débile, mais le jeu voilà, en vaut la chandelle. Si vous avez l'occasion, jouez-y. Effectivement, il a un poil vieilli, pas mal vieilli même, mais c'est un incontournable des FPS GoldenEye. Et donc cette musique d'ascenseur, en guise de petite troll ou musique de jazz, c'est cadeau, c'est pour moi ce troll. On va passer à quelque chose d'un poil plus sérieux quand même, il faut. Un jeu que je n'ai pas fait, mais c'est Victor qui va nous en parler. Jeu d'aventure sorti en février 2012 sur PS3 et Xbox 360. Il s'agit de Catherine, un jeu développé par Atlus, qui est également le studio qui a fait Persona, Etrian Odyssey et tous les Shin Megami Tensei entre autres. On va entendre une version jazzy de la marche funèbre de Chopin, musique de Shoji Meguro, qui est le compositeur résident d'Atlus. Alors, parle-nous un peu de Catherine et de sa bande-son, Victor.
Alors, Catherine, c'est un jeu d'aventure puzzle, parce que on y joue Vincent Brooks. Vincent qui est un trentenaire, qui a une copine qui s'appelle Catherine avec un K. Sa copine qui lui annonce qu'elle est bientôt enceinte et qu'elle veut se marier, forcément. Donc lui, en tout bon trentenaire, panique comme pas possible et va rencontrer Catherine avec un C, qui est une nana un peu, voire très allumeuse, qu'il va rencontrer dans un bar qui s'appelle le Stray Ship. Et en fait, le jeu se déroule en deux parties principales, c'est-à-dire la phase de jour, entre guillemets, jour-soir, qui se déroule dans le Stray Ship, donc ce fameux bar, et dans lequel on va discuter avec le barman, les personnages, avoir des phases comme ça de dialogue, qui vont creuser le background, un background qui est très bien fourni d'ailleurs, qui a une narration... Catherine, c'est un jeu qui est très très bien écrit, donc c'est vraiment très intéressant. Et à côté de ça, des phases de puzzle la nuit. On a des étages à monter, et je sais pas vraiment comment expliquer ça, mais en gros, on a des piles de blocs, et on doit tirer les blocs pour arriver à se faire un escalier, et à monter au fur et à mesure. Alors avec des subtilités, il y a des blocs bonus, il y a des blocs malus, etc., il y a des boss. Et donc c'est un jeu qui est extrêmement intéressant pour sa mécanique, pour ses personnages, pour son ambiance, pour son chara design. Enfin, c'est une vraie perle ce jeu, c'est très très bien écrit, c'est très bien mis en scène, c'est très bien rythmé, le design est excellent, enfin voilà, c'est un jeu qui à mon sens a peut-être pas eu la reconnaissance qu'il mériterait, donc j'incite tout le monde à essayer de le faire, étant donné qu'il est pas mal difficile, faut s'accrocher, mais ça vaut vraiment le coup. Et du côté de la musique, on retrouve donc Soji Meguro, qui est aussi le compositeur des Persona, qui va fournir une bande son qui va alterner entre du jazz, entre de la musique un peu horrifique et de la reprise de thèmes classiques. Voilà, une bande son qui est très dans le ton du jeu et plus que la bande son, c'est vraiment le sound design qui m'a marqué, notamment des trucs tout cons, mais les temps de chargement, c'est des espèces de chronomètres et juste le bruit du chronomètre est super bien fait. Et voilà, il y a plein de petits détails comme ça, notamment sur le voilà vraiment le sound design plus que le jeu, plus que la musique, qui sont très très bien réalisés. Donc, Catherine, un jeu à faire.
Catherine, un jeu à faire et un jeu à écouter aussi. En tout cas, vous l'écouterez sur OSB avec cette reprise donc de la marche funèbre de Chopin. Très exactement, vous la trouvez sur YouTube sous le nom de Chopin Piano Sonata numéro 2 Funeral March Third Movement. J'espère que vous avez bien tout noté.
Et juste un dernier truc, c'est un jeu à faire parce que c'est le seul jeu du monde où quand vous allez au bar et que vous picolez, ça vous permet d'être plus efficace dans les phases de nuit. Et en plus, il y a le barman qui vous donne des anecdotes sur l'alcool que vous buvez. Et ça, c'est la classe.
Ça, c'est classe. On devrait faire pareil sur OSB. Bon, l'alcool nuit à la santé, ne pas en consommer avec modération, tout ça, n'est-ce pas? Mais ouais, pourquoi pas? En tout cas, nous, on est ouvert à tout type d'apéro avec nos auditeurs et même entre nous. Catherine, on va l'écouter tout de suite. Donc, la marche funèbre de Chopin, version jazzy.
Thank you.
un peu de musique classique dans notre jazz, un peu de Chopin arrangé à la sauce jazz. Vous écoutez toujours OSB, 12e du nom, sur le jazz, comme vous l'avez compris. Et vous venez d'écouter un morceau de l'OST de Catherine. On va continuer avec un jeu assez surprenant qui s'appelle The Blob. La BO un peu sur des tons comme ça, un petit peu jazzy. Et là, on a un morceau qui s'appelle Crescent Chroma City. Donc The Blob, c'est un jeu qui a été développé par des Néerlandais, des étudiants néerlandais en 2006, puis édité en 2008 pour iOS, Wii et Nintendo DS. Le joueur doit redonner les couleurs au monde en absorbant les cartouches de couleurs dispersées. La musique s'accorde avec les couleurs d'ailleurs. Il y a un compositeur qui s'appelle John Cuscott. J'ai eu l'occasion d'y toucher un tout petit peu à The Blob et bon, ça m'a pas transcendé, mais j'ai trouvé le concept assez marrant. Et Victor, toi, tu y as touché à The Blob beaucoup plus concrètement que moi.
Ouais, ben The Blob, voilà, comme tu l'as dit, c'est un ancien jeu étudiant, donc c'est un petit jeu de plateforme dans lequel on doit sauver et on doit repeindre une ville toute grise. Voilà, c'est un jeu de plateforme qui est pas transcendant, mais qui est sympathique. C'est assez enfantin, forcément, ça s'adresse à un public assez jeune. Mais moi j'ai pas mal apprécié, déjà parce que le principe de repeindre une ville en sautant, j'ai trouvé ça cool. Et surtout parce que voilà, l'accord du son avec la musique est vraiment sympa. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure qu'on va commencer à repeindre la ville, plus on met de couleurs, plus des notes s'ajoutent à de la musique comme ça, et il y a un petit aspect musique évolutive qui est super sympa. J'ai peut-être un jeu classique, on sent qu'ils ont pas totalement maîtrisé ce qu'ils voulaient faire. C'est assez répétitif, c'est pas super dynamique. Mais ça reste agréable et voilà. Je suis content que ces étudiants-là qui avaient réussi à donner un concept assez sympa aient pu le pousser jusqu'au bout. D'autant qu'il y a une suite qui était assez sympathique aussi, donc voilà, une bonne pioche.
Voilà, donc en gros, les défauts d'un jeu étudiant, mais les qualités d'un très bon jeu étudiant.
C'est ça.
Onink, toi qui ne parles pas beaucoup depuis le début, hein, est-ce que tu as quelque chose à rajouter ?
Oui, bah c'est vrai que je connais pas grand-chose du jeu, si ce n'est rien du tout, mais le morceau lui-même, je le trouve vraiment très cool. Il démarre tout doucement, la première partie est assez lente, comme si voilà, l'action était au ralenti, avec, on peut imaginer un personnage balourd qui met beaucoup de temps à se déplacer, avant de s'emballer complètement au milieu du morceau, pour aboutir à une piste très rapide, vraiment rythmée, et ouais, c'est du bon jazz bien, bien sympa. Le jeu en lui-même, j'ai pas grand-chose à rajouter.
Un peu dans l'inconscient général, moi ça me fait penser à Paris, au vieux Paris, à Montmartre, cette musique. Pas forcément à Amélie Poulain, mais moi ça me fait un peu penser à Caravan Palace par exemple, à des groupes comme ça. Voilà, ça swing, c'est sympa, c'est dansant.
Oui, c'est pas faux. Non, c'est vraiment, enfin moi j'ai vraiment beaucoup apprécié le jeu. Je l'ai aussi apprécié parce que je l'avais eu gratos avec le PSN Plus.
C'est plus facile. Voilà. Bien, on va continuer avec un jeu un peu moins surprenant, dans le sens où c'est un jeu très commun, mais avec ses petites surprises aussi dedans. Un jeu qui est en apparence dédié aux enfants, et pourtant, qu'est-ce qu'on se marre à jouer à ce Diddy Kong Racing, un jeu de course donc avec Diddy Kong en personnage phare. C'est un jeu qui est sorti sur Nintendo 64 en 1997, puis qui a eu un portage sur Nintendo DS en 2007. Les musiques sont de l'intarissable Dave Wise, hein, le fameux compositeur des musiques de Donkey Kong, et notamment et de Wizards and Warriors. Donc des musiques qui font comme ça, voilà, très très enfantines, mais qui se laissent écouter tout à fait. Là on va écouter un thème qui s'appelle Pirate Lagoon, du niveau du même nom, hein, de la course Pirate Lagoon. Il faut savoir sur ce jeu qu'en fait c'est un jeu qui a ensuite créé d'autres jeux en fin de compte. Puisqu'on retrouve dans Diddy Kong Racing les personnages notamment de Banjo, qui a été ensuite réutilisé dans Banjo-Kazooie notamment, hein, et dans ses suites. Il y a également le personnage de Tip Top qui fait des caméos dans Banjo-Kazooie. Il y a le personnage de Conker. On a failli passer un morceau de Conker Bad Fur Day dans cette OAC. Et justement, le personnage de Conker qui a ce jeu, mais beaucoup plus adulte comme jeu, où il y a Conker dès le départ qui est complètement torché chez lui, enfin c'est assez ridicule. Et donc voilà, on se retrouve avec des personnages qui ont finalement, qui se sont finalement créés, qui sont un peu extirpés de ce Diddy Kong Racing pour avoir leur jeu à part entière. Mais à la base, il y avait ce jeu-là, donc un jeu de course très très coloré, très très dansant, voilà, assez enfantin, un peu plus que Mario Kart en tout cas. Où il fallait délivrer le monde de l'horrible Whizpig et de l'emprise de l'horrible Whizpig en le battant aux courses et en battant les boss. Des musiques donc assez variées, mine de rien. Il y a le thème de Taj, hein, l'éléphant indien, bah, qui a un thème indien pour le coup. Il y a pas mal de... un peu de trucs pas surfaits, mais c'est des thèmes très convenus, très très communs. ou la, le thème de neige, on sait tout de suite que c'est un thème de neige, voilà, le thème avec des dragons, on sait tout de suite que c'est un thème avec des dragons dedans. Et donc là, voilà, cette musique de la baie des pirates, du lagon des pirates, très très dansant, qu'on va donc s'écouter tout de suite. Ben, je vais pas vous demander si vous l'avez fait, je crois, hein, Diddy Kong Racing.
Même pour ce qui est des musiques, c'est bon, c'est très très midi. Moi, c'est pas forcément mon test de thé. Voilà, c'est une sonorité très N64, des musiques qui font ouais forcément un peu penser à Mario Kart. Donc ouais, autant je trouve que ça marche bien pour certains styles de musique, mais pour le jazz, ouais, le résultat est rigolo, mais c'est pas forcément renversant un peu à l'image des musiques de Mario, pour faire un parallèle avec la musique qu'on a diffusée aujourd'hui.
Oui, effectivement, voilà, c'est plus rigolo qu'autre chose, on va dire. Après, voilà. Ça fait un jazz un petit peu avec des trompettes, avec des cuivres de partout, c'est très dansant. Pour ceux qui
ça va bien avec l'ambiance du jeu.
Voilà, donc quelque chose de très très dansant, et vous allez écouter tout de suite un morceau qui s'appelle Pirate Lagoon, et on se retrouve après, à tout de suite. C'était la joie, la bonne humeur, les chansons enfantines, le jazz un petit peu dansant à trompette de Diddy Kong Racing avec Pirate Lagoon. Vous écoutez toujours OSB consacré au jazz pour ce 12e épisode. Nous sommes en février 2014 ou peut-être en mars, hein, selon la date à laquelle vous l'écoutez, ou peut-être même après. Nous allons passer à un jazz un petit peu plus tranquillou, on va dire, hein, qui fait gentiment headbanger sur le canapé, avec le jeu Final Fantasy Crystal Chronicles The Crystal Bearers, donc la suite de Final Fantasy Crystal Chronicles, si je dis pas de bêtises. Le morceau s'appelle Crystal Locomotive, un jeu sorti sur Wii en novembre 2009 au Japon, puis en février 2010 en France. Les musiques sont de Ryo Yamazaki et des deux compositeurs de Final Fantasy Crystal Chronicles, à savoir Kumi Tanioka et Hidenori Iwasaki. Bon, j'en ai dit assez, maintenant Onink va pouvoir s'exprimer, lui qui a été un peu bridé par tout ce jazz jusqu'à présent. Onink, tu as fait Final Fantasy Crystal Chronicles et tu as des choses à dire.
Voilà, en effet, j'ai pu mettre mes mains dessus, donc oui, c'est pas exactement, tu le disais, la suite directe de Crystal Chronicles, parce que comme pour les FF classiques, ils sont complètement séparés les uns des autres. Il y a eu plusieurs épisodes sur DS, il y en a eu plusieurs sur Wii. Donc là, c'est le dernier épisode de la série des Crystal Chronicles, qui sont des jeux assez sympathiques, mais qui restent le parent pauvre de la série principale. Des jeux cool, mais quand même assez calibrés pour un jeune public, avec des idées de gameplay parfois très sympas. Avec par exemple, on se souvient du gameplay multiplateforme avec la DS pour l'épisode Echo of Time, où dans cet épisode-ci, Crystal Beerers, la gestion des pouvoirs télékinésiques, qui est quelque chose d'assez peu commun pour un JRPG. Donc c'est pas des jeux mauvais, mais c'est pas forcément très intéressant non plus. Néanmoins, on peut se satisfaire de la partie musicale, qui est toujours travaillée, comme pour les jeux canoniques, avec des pistes très très modernes, surprenantes, qui mêlent parfois du rock, du flamenco, du biniou, avec toujours beaucoup de rythme. Donc là, on va diffuser un morceau de jazz un peu dans cette veine, très enjoué, très stylé une fois de plus, mais assez cool.
C'est peut-être une BO un peu plus variée que le premier Crystal Chronicles, qui était une BO très très médiévale dans quasiment tout son ensemble.
Oui, c'est vrai que c'était très très classique. Là, ils sont lâchés.
Moi, c'est un peu pour ça d'ailleurs que j'ai pas fait The Crystal Beerers, parce que le premier m'avait passablement fait chier en fait. J'utilise des mots grossiers, mais ça sort tout seul tellement je le pense fort, parce que j'ai dû jouer 3 heures dessus, 4 heures dessus, et j'ai rage quit. Ça m'a ennuyé vraiment très très rapidement, et c'est dommage parce que j'aime beaucoup Final Fantasy, mais voilà, c'est comme ça. Mais la BO du premier est vraiment très très bien, et effectivement, là vous entendez donc Crystal Locomotive, ce jazz tranquillou comme ça qui passe très très bien, qui est un peu conventionnel on va dire, mais ça passe tout à fait dans un jeu comme ça en fond, nickel. Et pour continuer avec du jazz, là cette fois-ci un peu plus poussé, un peu plus bourru, mais dans des séries qu'on aime bien sur OSB, on a déjà parlé de Katamari Damacy, on va parler de We Love Katamari, sa suite, sortie en 2005 au Japon, puis en février 2006 en Europe. Les musiques sont, comme le précédent, de Yu Miyake. On va passer un morceau qui s'appelle Katamari on the Swing. Vous allez reconnaître peut-être le thème principal de We Love Katamari, enfin de Katamari Damacy. Onink, c'est encore toi, je pense, qui est le mieux placé pour We Love Katamari.
Oui, alors tu disais que We Love Katamari était la suite de Katamari Damacy, mais je crois que c'est plutôt l'inverse, si mes souvenirs sont bons.
Ah, mais si t'as pas de me contredire aussi, voilà.
We Love Katamari est sorti en 2006, donc après Damacy, qui est sorti en 2005. Après cette petite rectification, bon. Donc, Katamari, c'est un jeu extrêmement barré, délirant. Voilà, c'est des jeux qu'on aimerait quand même plus, qu'on aimerait voir plus souvent, hein, qui sortent des sentiers battus, ils proposent des choses d'originales sans pour autant sacrifier le gameplay qui est toujours aussi fun. Donc ouais, les musiques sont vraiment aussi barrées que l'esthétique du jeu, très colorées. Donc voilà, on va vous diffuser une musique chantée. Je pense qu'on peut vous laisser juger sur pièce cette piste très pêchue et haute en couleurs.
Ah, totalement haute en couleurs. D'ailleurs, vous allez pouvoir juger du magnifique cri de joie dès le départ du morceau qu'on va vous laisser en intégralité. Ouais. Donc voilà, le morceau s'appelle Katamari on the Swing. Et il apparaît sur le jeu We Love Katamari. Et on se retrouve ensuite pour la fin de ce 12e épisode. Come on, everybody! Swing. Na 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 Katamari Damacy, ou plus exactement We Love Katamari. Vous venez d'écouter le morceau Katamari on the Swing qui vous aura fait danser, j'espère, autant que nous. On va passer à une ambiance un peu moins dansante pour terminer ce podcast sur le jazz en compagnie d'Onink et de Victor toujours. D'ailleurs, vous l'aurez remarqué, c'est vrai qu'on l'a pas dit, mais il n'y avait pas d'invité hein, ce mois-ci. C'est la deuxième émission ou la troisième émission qu'on fait sans invité. Mais ça va très vite être corrigé, on va réinviter des gens, ne vous inquiétez pas, ce sera un peu plus peut-être vivant pour vous. En tout cas, il y a déjà des invités de prévu, de qualité, il y aura aucun problème pour ça. Et vous allez, je pense, prendre du plaisir avec cette mouture 2014 d'OSP, autant à l'écouter que nous à la faire. En tout cas, je l'espère, car en 2013, vous nous avez particulièrement suivi et apprécié. Donc nous apprécions beaucoup le geste, chers auditeurs. Donc on va terminer ce 12e podcast avec une musique de jazz. Mais vraiment, pour moi, c'est un peu le jazz par excellence dans le jeu vidéo, c'est-à-dire qu'on parlait de Grim Fandango tout à l'heure. Mais pour moi, il y a aussi SimCity. De manière générale, la série des Sims avec SimCity, tout ça. Les Sims, c'est pas forcément jazz, mais dans mon inconscient, c'est jazz. C'est plus classique, tout ça, des musiques un peu lounge. Et là, SimCity 3000, c'est vraiment du jazz pour le coup. On entend un morceau qui s'appelle Nightlife, voilà, qui est très smooth jazz, enfin le jazz tranquillou. Encore une fois, ça, j'arrête pas de dire ce mot-là, mais pour moi, c'est vraiment le truc qui me vient à l'esprit, c'est le jazz tranquille, quoi. Le jazz de comptoir, un petit peu. Le jazz de bar, lounge, classique. SimCity 3000 et SimCity en manière générale, vous y avez touché ou pas trop?
Oui, donc moi je me suis mis très récemment au jeu de gestion avec Civilization 4. Apparemment c'était un genre qui m'était complètement inconnu, donc voilà, SimCity, j'ai envie d'essayer. Mais j'ai pas encore eu l'occasion, pour ce qui est des musiques, oui, le jazz c'est vraiment un style qui peut convenir parfaitement bien à ce style de jeu. Donc c'est des parties qui sont très longues, donc des longues pistes de jazz, ça peut sortir, voilà, donc c'est comme tu le disais, c'est tranquillou, c'est cool, voilà, c'est rien à dire, c'est une très bonne bande son de SimCity 3000. Il n'y a pas que du jazz d'ailleurs, il y a d'autres styles.
Effectivement, mais, oui, ça passe très très bien. Donc le morceau s'appelle Nightlife, hein, il porte relativement bien son nom. Et avant de passer le dernier morceau, eh ben, on va se dire au revoir, les amis. Au revoir Onink et Victor, comme tous les mois, d'être avec nous. Enfin, presque tous les mois, parce que rappelons-le, on a fait une petite pause de quasiment 3 mois. Ça va plus se reproduire, on a pris notre petite vacances. On est chaud pour réenquiller mensuellement, là. Encore merci de vous être rendu disponible pour l'enregistrement de cette émission.
Mais d'ailleurs, là, ça fait un an, là, déjà, en fait, un an de l'émission.
Effectivement, si on avait fait une émission en janvier, on aurait vraiment
fêté. Un petit événement.
Voilà, on aurait pu le fêter réellement si on avait fait une émission un peu plus tôt. Donc voilà, effectivement, c'est plus ou moins cette émission-là qui va marquer l'anniversaire, le premier anniversaire de la création d'OSB. Donc bon anniversaire OSB! Jet de confetti cosmique et imaginé.
Ouais.
Boah, po, po, po. Voilà, donc vous entendez cette magnifique musique de Patrick Sébastien pour faire la fête. Hein, on a, voilà. Bon, on va pas la mettre trop longtemps. On va repasser sur Nightlife de SimCity.
Non, non.
Parce que bon, faut pas trop aller trop longtemps non plus. Faut pas vous perdre, chers auditeurs. Et on va terminer quand même ce podcast sur le jazz avec Star Ocean 3. Une musique qui s'appelle Star Ocean Forever. Alors Onink, c'est toi qui vas nous en parler de Star Ocean pour terminer OSB ce mois-ci. Si je dis pas de bêtises, c'est Sakuraba ou c'est pas Sakuraba?
C'est Sakuraba, effectivement.
Allez!
Il est partout en même temps. Hein.
Quel homme!
Tu te mouilles pas trop. Hein.
C'est ça.
Tu as porté l'RPG japonais, tu peux dire c'est à Sakuraba et 90% de chance que ce soit lui. Donc voilà, Star Ocean 3 sur PS2, c'est un des épisodes majeurs de cette série de RPG. Juste avant la grosse déconvenue, pour être poli, qui a été le quatrième épisode. Donc oui, on est dans du space opéra avec des combats très dynamiques, un peu à l'image d'un Tales of. Une histoire classique mais efficace. Voilà, ça reste dans les standards des RPG corrects, qui se mouillent pas trop, mais qui font leur job, des bons RPG. L'OST, voilà, le Sakuraba dans toute sa splendeur, dans le style très péchu qu'on y connaît. Il y a néanmoins des morceaux qui sortent un peu des sentiers battus, notamment celui qu'on va diffuser. Donc il faut savoir que c'est un des thèmes clés de la série, que Star Ocean Forever. On avait déjà entendu dans le deuxième épisode, dans le premier peut-être, mais ça a confirmé. Donc c'est une mélodie très identifiable, très héroïque, qui prend une autre dimension, je trouve, avec cette reprise jazz, que j'aime beaucoup, et qui conserve quand même un aspect très épique. Donc voilà, c'est une belle manière de conclure cette émission sur le jazz.
Tout à fait, belle manière de conclure. Merci à toi Onink, donc merci encore Victor. Et on se donne rendez-vous le mois prochain pour le 13e numéro avec un invité, si les conditions le permettent, avec un thème qu'on ne connaît pas encore, mais qui va être tout aussi palpitant que les 12 autres qu'on vous a proposés jusqu'à présent, je vous le promets. Allez, ciao ciao.
Ciao.
Bye.